L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. La semaine dernière, je vous ai dressé un rapide portrait de l'Arabie Saoudite en évoquant sa géographie, son histoire, sa relation privilégiée avec les États-Unis et la place occupée par l'idéologie wahhabite au sein du royaume saoudien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la période courant du 11 septembre jusqu'à nos jours. Au cœur de la chronique de ce jour, deux sujets majeurs, la gestion de la rente pétrolière et la personnalité plus que controversée de Mohamed Ben Salman. Derrière un visage de prince modernisateur se cache en réalité un souverain autoritaire tenant son pays d'une main de fer. L'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman, une révolution en trompe-l'œil, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et pour commencer, nous allons voir que la rente pétrolière est le garant du rayonnement et de la stabilité du royaume. Depuis les années 1930, et surtout depuis le pacte de Quincy, la richesse du royaume saoudien provient des exportations des ressources pétrolières. Le revers de la médaille est une économie ne fonctionnant que sur un seul pilier et qui peut être particulièrement sensible aux fluctuations de l'économie mondiale. Une information importante à retenir, aujourd'hui 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans. Un des enjeux majeurs de demain pour l'Arabie saoudite est la formation de ses élites. À cet effet, le royaume a mis en place un plan Vision 2030, qui est un train de réforme visant à réformer le pays. Ce plan a été élaboré suite à la baisse des prix du pétrole en 2014. Près de 90% du budget saoudien provient du pétrole et de ses exportations. En 2016, l'Arabie Saoudite a adopté un budget en déficit de près de 80 milliards de dollars. Le choix a donc été fait de diminuer les dépenses publiques en réduisant drastiquement le système des subsidies. Les subsidies désigne un système de subventions dont les Saoudiens sont les principaux bénéficiaires. Ce système de subventions s'applique à l'eau, à l'électricité et au carburant. Il s'agit là d'un système de redistribution de la rente pétrolière. Parmi les mesures qui ont été prises face à cette situation de crise, les prix des carburants ont augmenté de près de 40%. Par rapport à ce plan Vision 2030, l'un des points à retenir est la décision historique de céder une part du capital de la compagnie nationale pétrolière, la Saudi Aramco. Pour faire simple, la Saudi Aramco est le joyau de la couronne. Fondée en 1933, cette compagnie possède la quasi-totalité des gisements pétroliers saoudiens, dont le célèbre gisement de Ghawar, ce qui fait d'elle la première compagnie pétrolière au monde. Cette ouverture de capital pourrait représenter la somme de 100 milliards de dollars. Alors, quels sont les trois piliers du plan Vision 2030? Sur le plan économique, il s'agit de diversifier l'économie saoudienne et de favoriser l'émancipation des jeunes générations. Il est prévu d'augmenter les exportations de produits non pétroliers, avec des projets dans le domaine des énergies renouvelables et dans la production de gaz naturel. Ce projet vise également à accélérer la transition numérique de l'économie et de l'administration saoudienne. Sur le plan politique, il s'agit de réviser les structures institutionnelles pour apporter plus de transparence et d'agilité. L'idée est également d'associer plus étroitement les plus jeunes à la vie publique. Sur le plan social, il s'agit d'améliorer les conditions de vie de la population, notamment sur le plan de la santé et de l'éducation. Il est également prévu de développer le secteur du tourisme. L'objectif est de créer 450 000 emplois dans le secteur privé d'ici 2020. Le développement du secteur privé permettrait de mettre fin à la toute-puissance du secteur public qui est le principal pourvoyeur d'emplois des Saoudiens. En effet, les emplois du secteur privé sont majoritairement occupés par des expatriés. Maintenant, intéressons-nous au Saoudien qui est aujourd'hui très certainement le plus célèbre, Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman, dit MBS, est membre de la dynastie Al Saoud. Il est le petit-fils d'Ibn Saoud, le fondateur du royaume. Né en août 1985, il est prince héritier du trône saoudien et occupe le poste de vice-premier ministre. À la différence de ses frères, il n'a été formé ni en Europe, ni aux États-Unis, mais en Arabie Saoudite. Il démarre sa carrière politique en 2009, lorsque son père était gouverneur de Riyad. En 2011, au moment où son père est nommé ministre de la Défense, Mohamed Ben Salman devient son conseiller personnel. En janvier 2015, il est lui-même nommé ministre de la Défense, plus jeune ministre de la Défense au monde. Depuis sa nomination, il conduit les opérations militaires au Yémen contre la rébellion Houthi dont je vous ai parlé la semaine dernière. MBS est nommé prince héritier en juin 2017, en remplacement de son cousin Mohamed Ben Naïef. Fait inédit, il n'est ni le plus âgé de ses cousins, ni l'aîné de sa fratrie. Il était tout simplement le préféré du roi Salman. Lors du printemps arabe en 2011, le royaume saoudien, sentant le vent tourner, a injecté près de 130 millions de dollars au budget général afin de maintenir la paix sociale. Il s'agissait notamment d'augmenter la redistribution des prestations sociales. Mohamed Ben Salman participe alors à la création de la fondation IMSK, dont le principal objectif est d'accompagner les jeunes saoudiens dans les domaines artistiques et culturels, mais aussi dans les domaines de la technologie et de l'entrepreneuriat. Mohamed Ben Salman est aussi très connu pour sa purge de novembre 2017 contre les dignitaires du régime saoudien. En novembre 2017, Mohamed Ben Salman réalise une première démonstration d'autorité par une action anticorruption en Arabie Saoudite. Le 4 novembre, une commission créée pour l'occasion fait arrêter 4 ministres, 11 princes et plusieurs dizaines de dignitaires du régime. Les chefs de la marine et de la garde nationale sont eux aussi limogés. Les jets privés de ces personnes sont immobilisés afin d'éviter de voir les suspects prendre la fuite. Ces dignitaires ne sont pas placés en détention dans une prison, comme cela se fait habituellement, mais sont retenus dans les murs du Ritz-Carlton de Riyad. Ne l'oubliez pas, nous sommes en Arabie Saoudite. Au final, ce sont près de 300 personnes qui se retrouvent assignées à résidence dans ce palace. Dans les mois qui suivent, la plupart d'entre elles sont libérées, après s'être acquittées de sommes rondelettes auprès du trésor saoudien. Par cet acte fort, Mohamed Ben Salman a assis son autorité sur le pays. Maintenant, nous allons revenir sur une actualité brûlante dont vous avez toutes et tous entendu parler. L'affaire Jamal Khashoggi, un crime d'État. Le 2 octobre dernier, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, en exil aux États-Unis depuis un an, se rend au consulat saoudien d'Istanbul afin d'effectuer des démarches administratives en vue de se marier. Autrefois proche de la famille royale, il était tombé en disgrâce pour ses prises de position et ses critiques du régime. Dans les colonnes du Washington Post, il ne cessait de dénoncer les exactions de l'Arabie Saoudite, les relations avec le Qatar, ainsi que la répression politique dans son pays. Il faut souligner que l'Arabie Saoudite est régulièrement très mal classé en matière de protection des droits de l'homme. Jamal Khashoggi aurait été assassiné par une équipe d'une quinzaine de Saoudiens, arrivés peu de temps auparavant à Istanbul. Ces 15 hommes, présentés comme de simples touristes, sont repartis le 2 octobre avec deux jets privés en direction de Riyad. Au sein de cette équipe, était présent un médecin légiste qui serait arrivé à Istanbul muni d'une scie à découper. Président du Conseil scientifique saoudien de la médecine légale, il dirige également l'Institut de médecine légale et de police scientifique au ministère de l'Intérieur. Difficile de penser qu'une personne aussi haut placée au sein de l'appareil sécuritaire saoudien ait pu agir sans l'aval du palais. Ne le voyant pas revenir, la fiancée de Jamal Khashoggi a rapidement signalé sa disparition au gouvernement d'Ankara et aux médias. Jamal Khashoggi, sachant sa vie menacée, lui avait donné cette consigne s'il tardait trop à revenir de sa visite au consulat saoudien. La piste de la disparition volontaire a été vite balayée et les soupçons de meurtre sont apparus. À partir du 13 octobre, l'hypothèse de l'assassinat est avancée. Les capitales occidentales demandent des comptes à l'Arabie Saoudite et exigent la mise en place immédiate d'une enquête crédible. 16 jours après sa disparition, la résidence du consul d'Arabie Saoudite a été perquisitionnée par la police scientifique turque. Le 20 octobre, l'Arabie Saoudite reconnaît la mort de Jamal Khashoggi, expliquant qu'une bagarre avait éclaté au sein du consulat à Istanbul rixe à laquelle Jamal Khashoggi n'avait pas survécu. Le 21 octobre, l'Allemagne annonce qu'elle n'autoriserait pas d'exportation d'armes en direction de l'Arabie Saoudite. Du côté français, une telle décision n'a pas été prise, soulignant la place prépondérante qu'occupe Riyad dans l'industrie de l'armement française. Fait tout à fait notable dans cette affaire, les condamnations ont été unanimes et l'Arabie Saoudite se retrouve pour le moment largement isolée sur la scène internationale. Ainsi, au terme de ces deux chroniques, j'ai tenté de vous donner des clés de lecture pour mieux comprendre les rouages de l'Arabie Saoudite actuelle. Le royaume saoudien, s'il dispose intrinsèquement de ressources considérables, aussi bien financières que dans son sous-sol, n'est pas pour autant un pays développé, loin s'en faut. En économie, le phénomène d'un pays basant sa richesse sur une matière première sans autre diversification porte un nom, la Dutch Disease ou maladie hollandaise. Nous y reviendrons dans une prochaine chronique. Le manque de démocratie, les carences en matière de défense des droits des femmes et les carences dans le domaine éducatif contribuent à crédibiliser ce manque de développement. Le politologue spécialiste du monde arabe, Antoine Basbous, résume parfaitement ces contradictions et les difficultés de l'Arabie Saoudite actuelle. La rente pétrolière n'a pas suffisamment développé le pays. Elle a été et demeure essentiellement consacrée à soutenir les amis à l'extérieur, à amadouer les ennemis potentiels, à répandre l'idéologie wahhabite et, last but not least, à entretenir le fastueux train de vie de l'oligarchie princière. La logique de l'État rentier a été et demeure celle de la primauté de la répartition sur la production, de l'importation sur le développement des structures économiques nationales, de l'enrichissement sur le développement. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.